Ce matin, Célina va nous entraîner dans l'histoire de Caïn et Abel. Caïn qui a commis une faute grave, tué son frère. Mais Dieu ne l'a pas abandonné, Dieu ne l'a pas laissé tomber. Il s'est approché de lui et il lui a parlé. C'était même la deuxième fois qu'il lui parlait. Prisca, dimanche dernier, nous a raconté comment elle a vu Dieu lui parler à travers un chant. Caïn n'a pas cherché Dieu, mais Dieu s'est approché de lui et lui a parlé. Nous écoutons ou fredonnons comme un souffle fragile. La parole de Dieu se donne. C'est dans l'amour qu'il nous façonne. Nous lisons dans Genèse 4, les versets 1 à 16. L'homme connut Ève, sa femme. Elle devint enceinte, enfanta Caïn et dit : J'ai procréé un homme avec le Seigneur. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, Caïn cultivait le sol. À la fin de la saison, Caïn apporta au Seigneur une offrande de fruits de la terre. Abel apporta lui aussi des prémices de ses bêtes et leur graisse. Le Seigneur tourna ses regards vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Caïn en fut très irrité et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn : Pourquoi t'irrites-tu ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Si tu agis bien, ne te relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le. Caïn parla à son frère Abel, et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Le Seigneur dit à Caïn : Où est ton frère Abel ? Je ne sais, répondit-il. Suis-je le gardien de mon frère ? Qu'as-tu fait ? Reprit-il. La voix du sang de ton frère crie du sol vers moi. Tu es maintenant maudit du sol qui a ouvert la bouche pour recueillir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa force. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit au Seigneur, « Ma faute est trop lourde à porter. Si tu me chasses aujourd'hui de l'étendue de ce sol, je serai caché à ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » Le Seigneur lui dit, « Eh bien, si l'on tue Caïn, il sera vengé 7 fois. » Le Seigneur mit un signe sur Caïn pour que personne, en le rencontrant, ne le frappe. Caïn s'éloigna de la présence du Seigneur et habita dans le pays de Nô, à l'Orient d'Éden.
Bonjour à chacun.
Salut.
Le texte de la Genèse, c'est comme un grand jeu énigmatique. Il y a des indices et des choses cachées. Il y a le silence et des éléments explicites. Comment interpréter au mieux ce qui est dit et ce qui ne l'est pas ? Je ne pense pas qu'il y ait qu'une manière de comprendre les choses. Le récit de Caïn et Abel suit directement l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden, une tragédie qui se répercutera sur leurs descendants et sur nous aussi. Pour aborder ce récit qui est célèbre, je vous ai écrit 2 monologues. Un fera parler Caïn et l'autre évidemment Abel. Ce n'est qu'une manière de voir les choses. En lisant ce texte, je me suis demandé pourquoi ces 2 frères avaient décidé de présenter une offrande à Dieu, parce que personne ne leur avait demandé. Et voilà ce qui a germé dans mon esprit. Au bout des jours, Caïn, puis Abel, décident d'offrir quelque chose à Dieu, mais pour quelle motivation ? Écoutons-les. Je m'appelle Caïn. Moi, Caïn, je suis l'espoir de l'humanité. Je suis le tout, le seul qui compte aux yeux de ma mère. À ma naissance, elle a crié, « J'ai acquis un homme avec Dieu. » Elle m'a eu avec Dieu, moi. Elle a pu acquérir un humain, et pas n'importe lequel, moi. Moi, Caïn. Mon nom signifie « acquisition ». Elle m'a acquise avec Dieu. Je suis le sûr et le certain. Quelqu'un qu'elle ne perdra pas. Je suis la fierté de ma mère, vous l'aurez compris. Mon père ? Quel père ? Ah, vous voulez dire la dame ? Oui, elle l'appelle comme ça, l'homme. Je ne sais pas vraiment pourquoi et je m'en fiche un peu. Je suis l'homme de sa vie. Je cultive des champs, je plante et je récolte le fruit de la terre. Je suis un terre à terre. La terre, elle est à moi. Je suis l'héritier de mes parents. Mes parents croyaient avoir tout perdu lorsqu'ils ont été bannis du jardin d'Éden. Mais en fait, ma mère, elle m'a eu moi après. Ah oui, ça, je vous l'avais déjà dit. Ok, c'est vrai. Il y a Abel aussi. Il est mon frère. Il s'occupe de bétail. Il n'est jamais vraiment là. Il erre, il transhume avec ses bestioles. Franchement, il n'y a rien, strictement rien à dire sur lui. Alors ignorez-le. Ok, vous pouvez dire qu'avec ses animaux, il empiète sur mes plates-bandes. Ma terre que je cultive. Pour l'instant, je le laisse faire. Je suis un homme bien. Mais c'est quand même ma terre. Un jour, je la donnerai à mes descendants, si j'en ai. Et je commence à craindre de ne pas en avoir. Je n'ai jamais eu de femme, et du coup pas d'enfant. Et bizarrement, je le vois, je commence à devenir plus vieux que mes parents. C'est comme si la vie m'emmenait vers un lieu, un monde que personne ne connaît, la mort. Devrais-je être le premier à y passer? Dieu a dit à mes parents qu'ils allaient mourir. Et ils sont encore vivants, eux qui ont été créés à partir du sol du jardin d'Éden. Dois-je mourir avant d'avoir eu une descendance? Et si c'est le cas, c'est ce type, cette Abel qui aura mes terres. Hors de question de mourir. Je dois aller négocier avec Dieu, acquérir quelque chose, lui donner quelque chose, mais quoi? Ah ben oui, le produit de ma terre, ça c'est bien. J'ai réussi à faire quelque chose de bien d'une terre maudite. Et donner une part de cette récolte à Dieu, je suis sûre, il m'écoutera. Vous allez voir. Tiens, voilà Abel qui vient. Mais qu'est-ce qu'il fait encore? Je m'appelle Abel. Moi, Abel, je suis le frère de Caïn et rien d'autre. Un père absent, une mère qui n'a Dieu que pour mon frère, quelle place me reste-t-il? J'ai grandi sur la terre, pas loin du jardin d'Éden, un fabuleux paradis que mes parents ont perdu. Ce fruit que mes parents ont mangé reste amer bien des années après. Même moi, j'en ai encore le mauvais goût dans la bouche. De ce jardin, il ne reste que des regrets quand je regarde mes parents. Maintenant, nous sommes là, sur cette terre, à un jet de pierre de la terre originelle. La terre sur laquelle nous vivons est maudite. Ma mère nous a dit, peu importe, cultivez le sol. Caïn l'a fait, et dans la foulée, je l'ai fait aussi. Mais la poussière de ce sol maudit me fait froid dans le dos. Comment ne pas penser au fait qu'un jour, je redeviendrai poussière, je disparaîtrai. Disparaître, m'évaporer. C'est comme si ma vie n'avait de sens que dans le néant. Aux yeux de ma mère, d'ailleurs, je ne suis rien. Elle m'a appelée comme ça, la buée, le rien, la futilité. À qui manquerais-je si je devais partir? Alors je suis partie. J'ai réuni quelques bêtes, des chèvres, des moutons, et je me suis éloignée des terres cultivées par Caïn. J'ai marché, j'ai vu du pays. J'ai appris à regarder le ciel pour trouver une direction, un sens à mon chemin. Je n'avais pas grand-chose à moi, mais je savais que je ne voulais pas être prisonnier de la nostalgie du jardin d'Éden. Vivre dans les regrets, ce n'est pas la vie que j'ai choisie. Il y eut les jours, les nuits et le cycle des saisons. Je déambulais dans un décor de rêve. En dehors du jardin d'Éden, c'est encore la création de Dieu. Il m'a fallu bien des transhumances pour comprendre que, même si je ne suis rien, une poussière, je suis sur cette terre parce que Dieu m'y a placé. J'ai fui les terres de Caïn, la poussière qui se collait à moi, la mort qui serait la fin. Mais quelle belle vie vécue malgré tout. Vivre loin des regrets, vivre dans la création de Dieu, l'observer, en prendre soin, c'est ce que j'ai appris à faire. Je n'ai pas eu de descendance, c'est vrai. Ça me fait un pincement au cœur quand j'y pense. Mais lorsque je me rappelle de tout ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu dans cette vie, je ne crois pas que tout s'arrêtera après moi. Quelque chose me dit que l'histoire entre Dieu et les hommes a bien des jours devant elle. Un jour, nous serons réconciliés. Si ma vie devait s'arrêter là maintenant, je voudrais offrir à Dieu le meilleur de ce que j'ai. car lui m'a offert le meilleur, et j'espère qu'il m'en regardera. Au sortir du jardin d'Éden, deux hommes sont nés. Il y a Caïn et Abel. Dans les circonstances de leur naissance, dans leur nom, dans leur métier, nous voyons quelle empreinte la tragédie du jardin d'Éden a eue sur leur vie. Adam est comme absent de cette histoire. Il est le père fuyant, lui qui n'a pas su garder le jardin. Ève veut à tout prix avoir cette descendance. Peut-être pour réparer la faute commise. Son fils Caïn, elle le voit comme une acquisition. À ses yeux, il est une assurance. Caïn va naître et grandir en étant cette garantie. Il va cultiver le sol comme il aurait fallu le faire au jardin d'Éden. Abel, lui, n'est pas considéré. Il est le frère de, un point, c'est tout. Son nom signifie rien, la fumée, la buée, quelque chose d'inconsistant qui s'évapore. Abel a pris une autre voie que son frère. Il est devenu berger et s'est éloigné. Il a erré, a cheminé sans autre bien que le bétail qu'il gardait. Il y avait Caïn et il y avait Abel au sortir du jardin d'Éden. Il y avait l'acquis, la garantie. Et il y avait la fumée, la futilité et le rien qui errait. Mais devant eux, le temps était compté et la mort était en point de mire. L'indication, au bout des jours, des fois dans les textes on va lire après une certaine période, dans le texte hébreu on a vraiment cette notion d'une extrémité qui est là. La fin d'une période, peut-être la fin d'une vie. Caïn et Abel vont présenter tous les deux une offrande qui exprime beaucoup de leur vie devant Dieu. Caïn va présenter à Dieu une offrande du fruit de la terre. On ne sait pas s'il apporta une partie de sa récolte, quelle quantité, quelle qualité, quel effort ça lui a coûté et ce que ça traduisait des intentions de son cœur. Abel fera lui aussi une offrande. Le texte lui, par contre, va bien mettre en évidence que l'offrande d'Abel était particulière. Elle était précieuse. Il apporta une offrande de choix, de premier ordre, de qualité. Et cette offrande attira le regard de Dieu, alors que pour celle de Caïn, il n'y eut aucun regard. Abel a dérobé à son frère l'attention. Quel affront pour Caïn, qui était le premier et le seul qui comptait aux yeux de Ève. Caïn était le sûr et le certain, et beaucoup de choses lui étaient acquises, enfin c'est ce qu'il croyait. La mort était face à lui pour venir contredire cette croyance. Caïn croit maîtriser les choses. Il pense sans doute qu'il a pu atténuer par sa vie la gravité des conséquences de l'expulsion du jardin d'Éden. Les produits de la terre qu'il offrait à Dieu, était aussi peut-être une manière de dire qu'il avait réussi à cultiver malgré la malédiction de la terre que Dieu a prononcée en chassant Adam et Ève du jardin. Rappelez-vous en Genèse 3, « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est dans la peine que tu t'en nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi l'épine et le chardon et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Oui, tu es poussière, et à la poussière tu retourneras. L'homme est poussière et retournera à la poussière. Caïn, lui qui me semble être aussi solide qu'une statue d'airain, massive et immuable, lui aussi redeviendra poussière, Le vent soufflera et il disparaîtra. Caïn est passé toute sa vie à côté de cette réalité. Il la fuit, je pense. Et lorsque Dieu ne lui accorde pas le regard qu'il pensait mériter, il se dévisage. Littéralement, son visage tomba. Comme si un cataclysme venait secouer sa structure interne, les fondements de sa vie. C'est là qu'une violente pulsion se réveille en Caïn, la colère. Cette chose profonde a attiré Dieu vers Caïn. Et remarquez que Dieu ne s'est pas approché de Caïn pour son offrande. Mais face à cette colère sourde, profonde qui venait du fond de lui, Dieu vient parler à Caïn pour lui offrir de s'améliorer. De considérer l'échec de l'offrande non comme une fatalité, mais comme une possibilité de se dépasser. L'échec n'est pas une fatalité. Dieu avertit également Caïn sur le danger du ressentiment. Au verset 7, il dit « Si tu agis bien, ne le relèveras-tu pas ? Si tu n'agis pas bien, le péché tapis à ta porte te désire, mais toi, domine-le. » C'est comme si Dieu offrait à Caïn le choix de la vie ou de la mort. Comme si Dieu rendait à Caïn le fait d'être maître de sa vie. Une vie encore possible s'il fait l'amélioration qu'il faut. C'est comme si Dieu offrait à Caïn d'être un humain comme Dieu l'a toujours souhaité. Il lui offre le choix de s'améliorer ou de se laisser dévorer par le péché. Ce péché tapis à sa porte, aux aguets, est prêt à le dévorer, prêt à bestialiser l'humanité de Caïn. Caïn, je le pense, va batailler un moment entre ce choix, en tentant de parler à son frère. Mais c'est la bestialité qui va l'emporter. Attirant son frère sur son territoire, il le piège, il s'élève contre lui et le tue. Voici la première mort de l'histoire de l'humanité. Un meurtre, un fratricide. Deux frères ne se reconnaissant pas comme frères. Deux humains ne se reconnaissant pas comme égaux. Un homme devenu bête tue un autre homme. Abel, la buée, l'errant, le rien, est retourné à la poussière, sur la poussière du champ de son frère. Sa vie s'arrête là, et son sang est le témoignage que l'histoire du monde sera ponctuée de drames. Le récit nous éloigne toujours plus du jardin d'Éden. Mais Dieu va à nouveau parler avec Caïn. Où est ton frère ? Il rencontre le mensonge comme réponse. Caïn sera, tout comme ses parents, chassé. Ce que Caïn croyait maîtriser lui échappe totalement. Il perd sa terre, et toutes terres sur lesquelles il ira désormais lui seront hostiles. Il sera lui aussi un errant, un fugitif, un nomade loin de chez lui, tout comme Abel l'était. L'exclusion, c'est la mort, et c'est normal de mal le vivre. Qui pourra désormais protéger Caïn de tout ce qui vit sur cette terre et qui pourrait menacer sa vie ? Caïn a vu ce qu'était la mort en tuant Abel. Caïn a perdu de son humanité dans ce meurtre. Il est devenu une bête parmi les bêtes. Qui pourrait désormais le protéger d'être tué à son tour ? Alors Dieu offre à Caïn un signe de reconnaissance afin de préserver sa vie, car pour Dieu, il est exclu que l'homme se conduise comme un animal. Il est exclu que le péché tapis à la porte de chacun de nous nous saisisse à la gorge comme si nous n'avions jamais reçu les moyens de ne pas tomber dans la bestialité. Caïn s'enfuit dans le pays de Nod, qui signifie errance. Là-bas, il y construit une civilisation. Caïn reste Caïn. Il a besoin de bâtir des choses, du sûr et du solide. N'être rien est une chose impossible pour lui. Face à Caïn, face à Abel, face au tout et au rien, entre la nostalgie des choses perdues et la peur de la mort. Comment et où nous situons-nous? Maîtriser, posséder, acquérir ou fuir, je crois que nous passons notre vie à ça, à nous balancer entre contrôler et fuir. Et puis parfois, il y a des épreuves qui viennent comme un coup de pied dans la structure, une offrande refusée, un échec scolaire, professionnel, sentimental, une maladie, une pandémie. Nos fondations sont secouées, voire fragilisées. Et si tout devait s'écrouler, c'est effrayant, non? Est-ce que tout doit forcément s'écrouler? Dans un temps d'épreuve, que peut-il se passer? Je crois que la réponse est dans la parole de Dieu à Caïn. Ce n'est pas une fatalité, tu peux t'améliorer. Mais si tu ne le fais pas, tu risques de perdre ce qui compte vraiment, ton humanité. Il y a une guêpe, j'aime pas les guêpes. Laisser le péché nous sauter à la gorge, nous empoisonner, nous réduire, ça c'est le vrai danger. Comment arriver à la quintessence de la vie humaine? Construire nos vies avec tout ce que la création nous offre de meilleur et en même temps réussir à nous en détacher assez pour rester attachés à ce qui compte vraiment. Est-ce possible? D'ailleurs, j'aimerais revenir juste un coup sur Abel. Il n'a pas vraiment de place dans l'histoire de la Genèse. Mais comme je vous l'ai dit, Abel, Evel en hébreu, c'est le rien, la buée. Dans un autre livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, un grand roi sage qui a régné sur un royaume prospère arrive à la fin de sa vie et dit qu'est-ce qu'il pense réellement de ses accomplissements. On pense que Salomon a écrit le livre de l'Ecclésiaste. Dans ce livre, ce roi sage s'exprime sur ce mot, l'ével, la buée, le rien, la vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Fumée des fumées, tout part en fumée. Souviens-toi de ton Créateur alors que tu es encore jeune, avant que tes jours ne déclinent et que tu perdes le goût de la vie, avant que la poussière ne retourne à la poussière. Abel des Abel, tout est Abel. Ce qui fait l'humain, c'est de respecter Dieu en suivant ses paroles. Car Dieu demandera des comptes pour toutes nos actions, même celles qui sont cachées, les bonnes comme les mauvaises. Voilà en substance la conclusion du livre de l'Ecclésiaste. Caïn n'a pas respecté la parole de Dieu et il a perdu son image, son visage d'humain. Et il est devenu une bête. Abel, lui, avait dans son errance compris sans doute que tout est à Dieu et tout revient à Dieu. On peut alors lui offrir la meilleure part de ce qu'il nous donne. Malheureusement, Abel est parti en fumée. Il est redevenu la poussière du sol. Alors, que reste-t-il de l'humanité au sortir du jardin d'Éden et confronté à la mort ? Comment cette histoire humaine peut-elle continuer? Eh bien, il y a Seth. Seth apparaît au chapitre 5. C'est un autre fils d'Adam et Ève, un nouveau fondement pour l'humanité, la continuité de l'image de Dieu posée sur l'être humain, comme vous le pouvez lire dans la généalogie au chapitre 5. Il sera la descendance d'Adam et l'ancêtre de Jésus. Porter cette marque de l'image de Dieu fait de nous des humains. La vie que Dieu nous donne dépassera la malédiction du sol et de la poussière. Paul, dans l'Épître aux Romains, dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Jésus est cette amélioration que Dieu proposait à Caïn. Oui, c'est vrai, la création a été soumise à la futilité de la poussière. Mais dans la mort et la résurrection de Jésus, l'humanité se dépasse. Elle s'améliore au mieux. Préservons cette image de Dieu en nous. Prenons le temps pour méditer au fondement de notre vie. Écoutons Dieu. Prenons du temps pour observer la proposition de vie en Jésus. Approchons-nous de Dieu et laissons-nous approcher par lui. Entre Caïn et Abel, entre le tout et le rien, entre la nostalgie du passé et nos craintes de l'avenir, entre la vie et la mort, traçons avec Dieu notre voie, notre chemin pour faire briller notre humanité à l'image de Dieu, à l'image de Jésus, dans cette création tout aussi belle que souffrante. Amen.
Peut-être certains d'entre vous ont-ils envie de prendre la parole après ce message de Célina. L'occasion vous est donnée. Passons un moment de prière communautaire. Prions. Merci Seigneur. Parce que l'humanité telle qu'elle est, tu l'aimes. Merci parce que nous, êtres humains, oscillant entre la bête et l'humain, nous pouvons être toujours, manifester toujours une image de toi. Viens à notre aide, s'il te plaît. Amen. Seigneur, tu nous vois et tu nous connais. Tu sais ce qui est dans notre cœur. Merci parce que tu nous accueilles. Merci parce que nous pouvons te parler. Merci parce que tu n'as peur de rien, que nous pouvons tout te dire. Merci parce qu'il y a toujours une issue. Dans un problème qui se pose à nous, dans une situation qui est devant nous. Merci parce que tu es Dieu et tu le resteras toujours. Amen. Amen. Comme celle de l'humanité, la vie de Jésus n'a pas été un long fleuve tranquille. Il a connu ce bouleversement. Ces bouleversements dus à notre bestialité, à ces montées de contradictions, d'opposition face à lui. Dès le départ, il a connu l'exil, il a connu la contradiction, il a connu la faim, il a connu l'incompréhension, il s'est énervé après ses disciples qui n'y comprenaient rien. Il a connu la trahison, l'abandon, il est mort sur une croix. Durant toute sa vie, il s'est souvent retiré, cherchant de l'aide auprès de Dieu son Père. Sa vie, il l'avait fondée sur le roc de cette relation. Il a gardé toujours, parce qu'il était allé toujours chercher la force près de son Père, il a toujours gardé sur lui l'image de Dieu. Humain, il est toujours resté humain et fils de Dieu. Après Caïn et Abel, Dieu a permis que l'histoire de l'humanité continue. Jésus est mort. C'était un échec. C'était la fin de tout. Il voulait établir le royaume de Dieu, mais il est mort. À vue humaine, c'est un échec. Mais Dieu l'a ressuscité. Et aujourd'hui, il règne à la droite de Dieu. Si sa vie a pu paraître être un échec, c'est qu'il a été d'accord que cela soit ainsi. Il a été d'accord de vivre cela, de le faire pour nous, pour que nous puissions croire au pardon de nos péchés, pour que nous puissions croire qu'il y a un avenir possible pour nous, pour que nous puissions être débarrassés de la culpabilité, trouver notre pleine stature d'individu, portant sur nous l'image de Dieu. Nous écoutons, pour moi, il l'a fait.
Je sais que pour moi, tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car thank you. sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu.
Merci Jésus de ce que tu as fait. Merci pour tout. Merci pour tout. Amen. Je vais faire une digression dans l'ordre du culte. On va chanter maintenant. Avec tous les chrétiens du monde entier, qui eux aussi sont des humains portant l'image de Dieu. Nous allons chanter Notre Père. l'offrande, trois manières de la vivre, en mettant votre offrande dans la caissette sur l'étagère derrière vous à la sortie. Il y a Twint avec votre téléphone ou le CCP de l'église dont vous trouvez le numéro sur le site internet. L'église vous remercie de votre générosité qui permet à nos pasteurs et notre stagiaire de vivre et à nos activités de se poursuivre quand même et au bâtiment d'être entretenu. Merci beaucoup. Les annonces. Joanne m'a dit qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est bon. C'est l'anniversaire de Francine aujourd'hui. Bon anniversaire. Et puis tu voulais dire quelque chose? Ah non, c'est rien, je m'excuse. Bon, je vous propose de vous lever pour la bénédiction.
Bénédiction qui sera lue dans le psaume 37. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Aie le pays pour demeure et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Que le Seigneur vous accompagne cette semaine dans chacun de vos pas, dans chacun de vos jours, et soyez bénis. Bon dimanche. Au revoir.